nous allons trouver un texte spécial. Et nous arrivons en Proverbes chapitre 30, versets 18 à 20, qu'on va lire en deux fois. Alors, c'est dans le célèbre chapitre où part Agur, Agur ou Agour, Agour dans nos versions habituelles. On a vu la semaine passée déjà un passage de ce chapitre 30. Et donc Agour, c'est bon de le rappeler, a prononcé donc un message. Donc c'est un enseignant sage. C'est un homme profondément humble, on l'a déjà vu aussi, qui a horreur de l'arrogance. Et il y a plusieurs exemples de proverbes à nombre dans ce chapitre écrit par Agour. Alors, il y a 5 exemples de proverbes à nombre. Alors, un proverbe à nombre, c'est quelque chose qui se retient bien. Et je suis sûr que celui d'aujourd'hui, vous allez le retenir. C'est quelque chose aussi qui intrigue, qui suscite notre réflexion. Et ça fait longtemps que je réfléchis à ce proverbe à nombre qu'on va lire maintenant. Il y a toujours quelque chose qui attire notre curiosité, notre réflexion. Et c'est donc ça se retient. On a déjà vu donc une première liste la semaine passée, aujourd'hui, une autre de ces listes. Et donc, on commence par les versets 18-19, on va voir le verset 20 ensuite. Dans ces versets 18-19, donc il y a 4 choses merveilleuses adaptées à leur milieu. Je lis. Il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi et même 4, donc 4 que je ne comprends pas. La trace, le chemin que suit l'aigle dans le ciel, le chemin, la trace du serpent sur le rocher, le chemin aussi celui du navire en haute mer et celle ou celui de l'homme vers la jeune fille. Alors donc, ces versets énumèrent des choses qu'Agour juge merveilleusement adaptées à leur milieu, au but poursuivi, chaque fois. Alors le milieu, il faut bien le rappeler aussi, est chaque fois très difficile. Donc il y a toujours cette idée de difficulté. L'air, c'est un milieu difficile. Le rocher, la mère également. Et puis, la relation entre un jeune homme et une jeune femme. Alors, l'expression « il y a 3 choses » et même 4, c'est une forme littéraire pour mettre en évidence le 4e élément. Donc, quand il parle des 3e, des 1, des 2, des 3, c'est pour appuyer sur le 4e. Et c'est ce 4e sur lequel nous voulons insister ce matin. Le 4e élément de la liste est le plus important. Alors, venons d'abord aux trois premiers, et puis on va aborder le 4e ensuite. Donc, tout d'abord, l'aigle. L'aigle, eh bien, il vole dans les cieux. On s'est habitué à ça, mais c'est quand même quelque chose de merveilleux, quand on réfléchit un peu. Il peut voler des heures sans effort. Il peut voir un poisson dans un fleuve et plonger pour attraper le poisson, j'abrège. Qui lui a appris? C'est le fruit d'un conditionnement voulu par Dieu. Il en est de même du serpent qui glisse, qui semble glisser sur le rocher. Le serpent n'a pas de pied et pourtant il peut avancer très très vite, même sur un rocher qui semble vraiment un domaine inatteignable, où il semble qu'on ne puisse que... où il semble tout à fait à son aise. Il est parfaitement adapté également à son milieu. Personne ne lui a enseigné cela. Et même s'il est scientifiquement explicable qu'un navire puisse flotter, tous ceux qui ont visité des ports avec des immenses bateaux et des paquebots de toutes sortes, c'est toujours quelque chose d'extraordinairement étonnant. Il s'agit d'un phénomène qui reste a priori étonnant. Donc, tout cela c'est vrai, dit Agour, mais le plus grand mystère n'est pas physique, mais on va dire relationnel. C'est celui qui amène un homme et une femme à s'aimer, à s'unir pour l'éternité. Il y a là quelque chose inscrit par Dieu au plus profond d'eux-mêmes. Il y a un chemin là, inscrit par Dieu l'un vers l'autre au plus profond d'eux-mêmes. Seul le péché qui conduit au dérèglement, qui dérègle tout, peut le nier. Alors le chemin d'un homme et d'une femme amoureux, c'est ce qu'il y a de plus mystérieux, on va dire. C'est incroyable comment des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes hommes se comportent quand ils sont tombés amoureux. Alors, quand des amoureux sont ensemble, ils semblent appartenir à une autre sphère, une autre dimension. Et les sentiments qu'ils éprouvent sont à la fois indescriptibles, mais aussi invisibles. Alors, ça nous amène à deux réflexions, déjà. Tout d'abord, il faut insister sur le fait que dans la Bible, la sexualité est une fonction créée par Dieu, glorieuse et mystérieuse, qu'il faut traiter avec respect, ne pas l'avilir, donc, et non pas non plus l'abuser, en abuser, et il faut la vivre dans les règles fixées par Dieu. C'est là qu'elle s'épanouit droitement. Et puis, autre réflexion, on peut dire que personne ne peut saisir, on l'a dit, ni décrire totalement ce chemin des cœurs en détail. Bien. Mais il est vrai aussi que dans la parole de Dieu, Dieu donne des principes à suivre pour notre profit. Donc ce chemin qui reste mystérieux est quand même balisé dans la parole de Dieu. Et donc nous pouvons voir rapidement quelques principes fondamentaux qui balisent le chemin entre un homme et une femme. Alors Dieu, tout d'abord, on peut rappeler en tout cas que Dieu met toujours ensemble dans le mariage deux sexes. Et c'est à la fois confirmé par l'Ancien Testament, par le Nouveau Testament, en Romains 1, 26, 27. Alors ça n'exclut pas naturellement des amitiés profondes entre jeunes gens, hommes et hommes, entre jeunes filles, femmes et femmes. Au contraire, on ne peut que recommander de telles amitiés. Elles sont source de grands encouragements et elles peuvent être une réelle bénédiction. Un autre principe, c'est qu'il n'y a pas d'union mal assortie. Il n'y a pas, Dieu ne veut pas d'union mal assortie avec des incroyants. Alors on cite souvent 2 Corinthiens 6, 14, ne pas se mettre sous un joug avec des étrangers. Ça s'applique entre autres à l'union entre croyants et incrédules dans les liens sacrés du mariage. Alors on voit par exemple, que je vais rappeler brièvement, Genèse 24, vous le relirez chez vous, on voit Abraham, le souci d'Abraham était de ne pas donner à son fils une femme cananéenne. Alors il faut comprendre, une femme idolâtre, ce n'était pas un problème d'ethnie ou de race, c'était un problème spirituel. Et donc ça veut dire pour nous aujourd'hui, pas d'union avec quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, mais qui est un enfant du monde, au milieu duquel nous vivons. Alors ça, c'est un principe. Et on peut dire aussi que de larmes amères ont déjà coulé, parce que cette exhortation, pourtant si claire, a été foulée aux pieds. Et la désobéissance ne trouve aucune promesse de Dieu pour s'y appuyer, dans ce domaine comme dans d'autres. Rien dans la parole de Dieu n'autorise une union qui spéculerait sur une conversion ultérieure, hypothétique. Alors un autre principe, c'est seulement dans le Seigneur. Corinthiens 7, 39, Paul s'adresse aux veuves, il les autorise à se remarier, mais seulement dans le Seigneur. Et c'est valable pour tout croyant, cette injonction de Paul est valable pour tout croyant. L'union par le mariage dans le Seigneur va plus loin, il faut bien le rappeler, que le simple fait d'un mariage entre deux croyants. Elle signifie que les deux ont la conviction donnée par le Seigneur d'être destinés l'un à l'autre et qu'ils sont fermement décidés à marcher dans la soumission due au Seigneur, dans le Seigneur, toute leur vie. Alors bien sûr, il y a l'amour qu'on cite beaucoup dans ce domaine. L'amour n'est-il pas la condition primordiale, on va dire, pour qu'une union soit heureuse? Ben oui. Mais le véritable amour n'agit jamais en opposition à la volonté de Dieu. Il ne rend pas aveugle le véritable amour. Un sérieux jugement de soi-même devant le Seigneur est donc nécessaire pour en connaître le vrai mobile. Alors il y a aussi un autre principe, c'est la demande à Dieu d'une épouse. Tout à l'heure, Eric a dit que dans n'importe quel choix à faire, la chose à faire, c'est la prière. Et on voit que Abraham aussi envoie son serviteur Eliezer, hein, toujours en Genèse 24, et nous fournit là un bel exemple. Eliezer prie, hein, pour que Dieu le guide. Hein. Et il demande à Dieu non pas une jeune fille gracieuse ou riche, hein, pour Isaac avant tout, il demande une jeune fille qui voudrait bien, hein, le servir, hein, qui a un esprit de service. Alors elle va servir l'étranger qu'il était, c'était vraiment pas évident. Hein. Elle va prendre soin aussi, hein, de ses chameaux fatigués, hein. C'est un contexte de l'hospitalité. Mais donc, voilà, hein, la demande qu'il fait, hein, est une demande appropriée, hein, et qui va à l'essentiel également. Hein. Prier, hein, pour sa future épouse, son futur époux, ça permet d'attendre, hein, ça permet de rester aussi dans les buts que Dieu nous fixe. Et puis un autre principe, bien sûr, c'est aussi le lieu de rencontre. Hein. Eh bien, on voit que le serviteur d'Abraham, Eliezer, rencontra Rebecca près d'un puits. Alors, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose, hein, mais c'est là que jaillissait l'eau, hein, et qui est l'eau qui figure donc de la vie, hein, mais aussi de la parole de Dieu, hein, appliquée par l'Esprit-Saint. Et donc, où veut-on rencontrer son futur époux ou sa future épouse, hein? Est-ce dans un monde sans eau, hein, ou dans le lieu choisi de Dieu où la parole rafraîchit les cœurs, hein? Voilà, si on veut rencontrer, voilà, un quelqu'un qui marche avec Dieu, on va le rencontrer avant tout dans une église, hein, et on va favoriser les rencontres d'église, les rencontres entre jeunes, etc., etc., hein, et les camps et toutes ces choses-là où on peut rencontrer d'autres jeunes chrétiens engagés, hein. Un autre principe, c'est une aide qui lui corresponde. Là, je vais très brièvement, hein. Dieu voulait pour Adam une aide qui lui corresponde. Alors, de trop grandes différences d'éducation, de maturité, hein, et aussi, surtout, on va dire, d'engagement spirituel, peuvent constituer au cours des années une charge dans la vie commune. Et donc, il faut bien y réfléchir avant. Hein. Et puis donc, on pourrait ajouter énormément de choses, hein, sur l'attachement de l'un à l'autre, hein, qui est une valeur à renforcer tout au long, de la vie, hein, de la vie commune, hein. Et on pourrait aussi parler, bien sûr, de l'union conjugale qui, au-delà, hein, de l'union sexuelle, qui vraiment vise, hein, couronne une pleine unité d'amour et de vie entre deux personnes, aussi bien quant à l'esprit, l'âme et le corps, hein. Donc tout cela, ce sont les grands principes, on pourrait dire, et on pourrait en ajouter d'autres. Comment Dieu réunit tout cela? Eh bien, dans le cadre, hein, du mariage, comment Dieu réunit tout ça, c'est effectivement une merveille. Hein. C'est effectivement, on va dire aujourd'hui, avec les mots d'aujourd'hui, un miracle pour nous. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Hein, c'est ce que Dieu veut faire. Par contre, voilà, par contre, le verset suivant, le verset 20, parle des effets incroyables du péché. Hein, et c'est bien de lire les deux ensemble, ces deux entités. Voici, verset 20, je lis le verset 20. Voici comment agit la femme adultère, l'homme adultère, on va dire. Elle satisfait ses appétits, s'essuie la bouche et dit « Je n'ai rien fait de mal ». Donc, à cause du péché, hein, qui a été introduit dans le monde, il se produit quelque chose d'également incroyable. Hein. Un homme ou une femme se sent tout à fait à l'aise dans le péché. Ils sont là dans leur véritable élément. Pour lui, pour elle, commettre l'adultère est aussi banal que prendre un repas. Hein, que ce, et donc, ils ne ressentent aucun trouble. Hein, ils s'essuient la bouche, ils se lavent les dents, on va dire aujourd'hui. Hein, aucun problème de conscience, apparemment. Hein, aucun problème de culpabilité. Hein. Ah, ça nous rappelle que le péché endurcit, le péché aveugle, le péché rend insolent, hein, son auteur, qui la plupart du temps vit dans le déni. Hein. C'est un peu comme ça que de nos jours, les gens voient l'acte sexuel. Hein. La sexualité de nos jours a perdu son mystère, son sens du sacré, et pour devenir une cuisine ordinaire et banale et sans goût. Donc ça nous rappelle un thème important de la Bible et du Nouveau Testament en particulier, la nature trompeuse du péché. Pas seulement dans ce domaine, hein, dans beaucoup d'autres domaines. Paul décrit le péché sous la forme d'un ennemi qui trompe. Alors nous avons trois ennemis, bien sûr, le diable, le monde et notre nature pécheresse, le péché. Un ennemi qui trompe pour ensuite nous tuer. Voilà le but poursuivi. Donc cet ennemi bénéficie de la complicité d'une sorte d'espion intérieur, d'un espion dissimulé en nous, un espion qui endort, qui anesthésie l'esprit, la conscience, par le moyen de l'imagination, d'illusions de toutes sortes. Et donc le péché poursuit un double but. D'abord, renverser les murailles. Nous dressons des murailles, la parole de Dieu dresse des murailles, notre conscience dresse des murailles. Et le péché essaie de renverser les murailles pour faire entrer l'impiété destructrice. Et ensuite, le péché a pour but de diriger d'autres murailles pour faire barrage à la repentance. La repentance, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. La repentance qui n'est pas un vague regret du mal commis, mais une ferme décision de rompre avec ce mal et de ne plus le commettre à l'avenir. Donc le péché poursuit ce but aussi, diriger des barrages contre la repentance, pour empêcher la repentance de se faire. Donc nous sommes pris au piège de notre propre péché, voilà ce que dit la Bible. Combien nous avons besoin de comprendre que le péché œuvre inlassablement en nous pour parvenir à ses fins terrifiantes. Alors le péché dispose de techniques pour tromper. La première technique, c'est que la tentation exploite à la fois nos points faibles comme nos points forts. Je l'ai déjà répété à ce micro. La tentation exploite les points faibles et les points forts de notre tempérament. Que celui qui est debout donc prenne garde de tomber. Et c'est parfois avec nos points forts que nous sommes le plus tentés. Puis le péché peut embrouiller. On en a touché un mot tout à l'heure, le péché embrouille. Il embrouille notre esprit. La parole de Dieu clarifie, elle rend claires les choses. Le péché embrouille tout. Il peut embrouiller notre esprit, notre intelligence, de manière vraiment diabolique. Nous savons parfois parfaitement, pertinemment, quelle attitude il convient d'adopter dans un problème moral donné, par exemple. Mais malgré cela, il nous arrive d'adopter une autre attitude, sous prétexte que les circonstances différentes justifient exceptionnellement un autre choix. Et puis le péché peut aussi paralyser notre esprit en l'hypnotisant. Si on voit des films sur les animaux à la télé, on voit que certains animaux utilisent ce pouvoir hypnotique, ils hypnotisent leur proie. Et on sait que c'est pas pour les opérer ensuite, c'est pour les manger. Et donc, le péché paralyse notre esprit en hypnotisant tellement par des perspectives, par exemple, éblouissantes qui sont offertes à l'action, tellement que la conscience et la raison ne peuvent même plus placer un mot. Après coup, on dira, je n'avais pas réfléchi. Eh oui, c'est ça, c'est ça le problème. Aveu combien éloquent. Et donc, même dans plusieurs catégories de péchés, on peut parler de la cupidité, de l'amour de l'argent, de la violence, et puis même les péchés dits sexuels sont souvent le fait de personnes dont l'esprit est momentanément hors circuit. Et donc, c'est un état, bien sûr, qui est aggravé par la consommation d'alcool, par la consommation de drogue, ainsi que par la fatigue. Et la fatigue, c'est vraiment aussi une plaie dans notre monde. Et puis, finalement aussi, une autre tactique, et là, je n'irai pas beaucoup plus avant, c'est l'endurcissement. Le péché endurcit. Et là, la parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire. C'est aussi une technique qui est poursuivi par le péché, l'endurcissement qui conduit le pécheur à ne plus avoir conscience du tout du mal qu'il commet. Là, ce n'est plus une rupture momentanée, c'est vraiment une rupture totale, profonde. Alors, combien nous avons besoin de comprendre d'abord que le péché œuvre inlassablement pour parvenir à ces fins terrifiantes. Et il utilise, bien sûr, tous les rouages de la société pour le faire. Seule la grâce, seule l'intervention de Dieu dans nos vies par son Esprit Saint peut en triompher, bien sûr. Et les psalmistes, par exemple, priaient pour avoir la grâce de reconnaître leurs péchés, afin de pouvoir y renoncer en comptant sur le secours de la grâce du Seigneur. Psaume 139, je ne lis que celui-là, 23-24. On le connaît, on le chante. Mais c'est beaucoup plus profond qu'on ne croit. C'est une vraie prière. Sonde-moi, ô Dieu. La version que j'ai choisie, pénètre mon cœur. Il a besoin d'être pénétré, parce qu'il est tellement une petite carapace, là. Pénètre mon cœur. Donc c'est là le centre de l'intelligence, des pensées, de la volonté, dans la Bible. Pénètre mon cœur, examine-moi. Pénètre les pensées qui me bouleversent, qui m'agressent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Alors puissions-nous faire cette prière avec nos mots, parce que nous en avons réellement besoin. Et je termine par une courte conclusion. Voilà, Lydie n'aura pas le temps d'arriver à son piano. Que notre communion avec le Seigneur soit si étroite. C'est ça l'enjeu. Que notre communion avec le Seigneur soit si étroite que le péché nous apparaisse immédiatement pour ce qu'il est, c'est-à-dire horrible. Amen.